RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Bien à Rio pour la dernière journée de ces Jeux Olympiques. Vous allez tout vivre en direct, bien sûr, jusqu'à la cérémonie de clôture la nuit prochaine. On est avec la Dream Team Olympique, Sophie Camoun, Jacques Monclar, avec vous au 32-16. Venez nous donner vos tops, vos flops dans quelques instants, que ce soit en termes sportifs, organisationnels, ambiance, les Français, les étrangers. N'hésitez pas, on a un petit retour image là avec Sophie et Jacques de l'arrivée du marathon. Et il y en a qui galèrent vraiment. Il y a un marathonien qui est en train de finir en pas chassé. On comprend pas trop pourquoi, visiblement.
Des crampes, une blessure.
Il y a certains qui sont perclus de crampes. Horrible.
Imaginez, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas le cagnard qui avait aux 50 km marche. Hein, et
là,
malgré tout,
pleut,
on voit
il
des.
Aujourd'hui sur Rio, effectivement.
Mais finir pour les marathoniens, exactement, ou comme les marches pour les marcheurs, ça a une résonance énorme. Mais le dépassement, alors oui, on reviendra au médical, on reviendra à tout ça, au coaching de ces gens-là, mais. En tout cas, l'âme est là. Hein.
Vos top, vos flops dans quelques instants.
Ce sont les premiers, on va voir ce qui va se passer derrière.
Hashtag RMC Live.
Bon, c'est pas les premiers, mais enfin, ce sont pas les derniers non plus.
Je vous rappelle en foot la défaite de Marseille à Guingamp, 2-1. Et ça vient de partir entre Saint-Etienne et Montpellier, deuxième journée de Ligue 1 avec Edouard G. Salut Edouard.
Salut Loïc, bonjour à tous. Toujours 0-0, 10 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard qui sonne un petit peu creux, à peine 26 000 spectateurs. En cause surtout le fait que l'une des tribunes est fermée. Huis clos partiel et c'est pour ça aussi que vous n'entendez pas d'ambiance puisque le COP Nord, c'est le COP Sud qui est fermé, le COP Nord a décidé de faire la grève des encouragements au moins pour le début de match assez intéressant côté Stéphanois avec un 3-5-2 totalement inédit avec des joueurs totalement inédits aussi pour Christophe Galtier qui doit faire avec beaucoup d'absents. Pour l'instant il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'action mais très peu de tirs cadrés, donc on en reste à 0-0, 10 minutes pile poil de jeu.
On surveille également la conférence de presse de bilan hein, qui a lieu en ce moment du côté du Club France avec Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, Denis Masseglia, le patron du comité olympique français, en présence de Teddy Riner, le porte-drapeau qui sera donc présent à la cérémonie de clôture également. On vous la fera partager, on vous donne toutes les infos dès qu'elles tombent. Vos tops, vos flops, Sophie, de ces Jeux Olympiques. Alors, je vais pas donner un nombre, hein, 3 de chaque ou ce que tu veux, n'hésitez pas, que ce soit en termes sportifs ou quel que soit le domaine. L'ambiance, l'organisation, on commence par quoi ? Par tes flops ?
On va commencer par les tops.
Allez, on commence par les tops. Alors, vas-y, on t'écoute.
Pour moi, le top du top, c'est tout simplement le plus gros exploit des JO, c'est-à-dire Usain Bolt. Voilà, c'est ce gars représente l'olympisme à lui tout seul dans cette façon de dans cette fierté de représenter son pays. Il faut savoir qu'il loge au village olympique. C'est quand même une énorme star. C'est peut-être la seule star planétaire qui loge encore au village olympique et il prend plaisir à ça. Voilà. Dans le partage, dans la communion avec le public, dans le fair play, dans le panache. Ce gars, il a tout, il est juste magique. Donc déjà, il a fait un triplé historique, 100, 200, 4x100, 3x8, dans une épreuve, dans des disciplines aussi pointues que le sprint, où c'est quand même difficile de rester au haut niveau pendant longtemps. Et puis voilà, et puis là, il a une classe, il a un sourire, j'adore
ce qu'il est. Si on s'arrête 10 secondes là sur Usain Bolt, a-t-il intérêt finalement à continuer à tout court, hein. L'athlète, il y a des mondiaux l'année prochaine en 2017, il est tellement au top. Est-ce qu'il a pas tout à perdre finalement à continuer, sachant que là c'est encore plus une légende après ces Jeux de Rio, Jacques?
Ah bah ça c'est le débat du champion, pas faire le combat de trop l'année de trop. Il est immaculé aux Jeux Olympiques, en tout cas quand il est en finale, parce qu'en 2004 il avait une expérience, il était tout jeune, un peu douloureuse. Sur les Olympiades, il n'a pas intérêt à vouloir.
Parce qu'après ce qu'il a fait des mondiaux, ça n'a plus trop de sens.
On va dire en plaisantant, il est fou de foot, il adore Manchester United, il a qu'à aller.
Il a 30 ans quand même. Hein.
Il a qu'à aller jouer au foot. Mais... Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'il est devenu, Sophie l'a dit, je vais le dire en plaisantant, mais depuis Bob Marley, on n'avait pas eu un Jamaïcain aussi célèbre.
C'est vrai.
Il est emblématique d'un pays. Alors, bien sûr, on peut critiquer, on peut trouver de l'arrogance et tout. Puis j'aime bien sa grinta pour la gagne. J'ai bien aimé, moi, en demi-finale, quand De Graaf
avec De Graaf,
ah bon, tu veux y aller? Bah, tiens, regarde, je mets un petit coup de booster.
Exactement.
Et puis, je prends juste.
T'es encore derrière, mon gars.
Et à la fin, il lui dit, mais pourquoi on a couru en 19-80? Oh, c'est que la demi-finale, quand même.
Gros éclat, c'était génial comme scène.
Ouais, j'ai bien aimé.
Et vous avez, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux cette scène, le soir durant les 4x100, donc il a terminé ses épreuves, il a dû passer le contrôle antidopage, les interviews et tout, il est 1h30 du matin, il revient sur le stade, sais pas si vous avez vu ce moment-là.
Oui,
il revient sur le stade, il prend un javelot, et il mime le lanceur de javelot, et il lance un javelot.
Tes autres tops, Sophie, au-delà de Bolt.
Pour l'équipe de France, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup parlé des boxeurs, évidemment. Moi, je vais revenir peut-être sur ce qu'on a vu ces deux, trois derniers jours des Jeux Olympiques et le comportement des filles en sport co, enfin, en basket et en hand, parce que ce sont deux équipes qui,
Je rappelle, quatrième les basketteuses et vice-championne olympique les handballeuses.
Voilà. Et puis le parcours, la performance est d'autant plus belle que le parcours est difficile. Et là, on savait que ces équipes étaient touchées, l'une et l'autre. Mais voilà, elles n'ont jamais coulé non plus. Et quand je dis toucher, c'est il y en a une qui a perdu son capitaine emblématique juste avant les Jeux en basket. Le hand, on sait les difficultés qu'a traversé cette équipe. Et voilà, je crois que personne n'aurait misé sur ces deux équipes juste avant les Jeux Olympiques. Et de par leur cœur, leur panache, leur courage, elles ont réussi pour le hand à faire le meilleur résultat de l'histoire du handball féminin. Et puis pour le basket, de décrocher pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques le top 4 mondial avec cette demi-finale.
T'es top, Jacques. On passera au flop évidemment après. Franck est avec nous au 32-16.
Alors moi, le top international, je dirais que c'est Michael Phelps. Parce que c'est 23 médailles d'or, c'est 27 médailles olympiques. Ce mec-là, enfin, quand j'écoute les spécialistes, dont Sophie, c'était une machine à gagner, un peu un robot qui avait gagné en étant malheureux en 2012, qui a traversé des histoires de dope, des histoires d'alcool, qui s'est retiré, qui est revenu, qui a été interdit de compète l'année dernière. Et j'ai regardé ce mec-là et instantanément, le coup du 4x100, quand il gagne, je l'ai vu sur le podium. Un homme épanoui qui prenait soin des petits gars à côté de lui, qui pleurait. Je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé rayonnant, charismatique, dominant. Et dominant même dans la défaite, parce que quand il perd sur le sans-pape, je me souviens jamais du nom du gars de Singapour. Là.
Schooling,
voilà. Là, ça aussi, il a su faire. Je crois que c'est peut-être l'Olympien le plus magique au total. On va se rendre compte qu'il a deux fois plus de médailles d'or olympiques que notre pays.
Mmh. Non mais c'est clair, non mais en
c'est
termes
un pays
de médailles,
à lui tout seul, ce mec-là.
Imbattable.
Voilà, dégager du charisme et je rapproche ça de dans mon sport, Michael Jordan et Kobe Bryant étaient des mecs qui avaient pas trop de charisme au début de leur carrière et qui sont la fin de leur carrière se sont réalisés là-dedans aussi. Je fais un parallèle avec ça et je trouve que il a donné une image fantastique du sport et de son sport, de son pays, de lui-même, avec son petit bonhomme dans les tribunes, avec sa femme, son petit bonhomme avec le casque sur la tête. Bref, j'ai trouvé que c'est une belle histoire, quoi.
Un top français, peut-être?
Ouais, alors j'ai adoré, Émilie Andéol. Mais j'ai plus qu'adoré. Adoré le fait qu'on ait un décathlonien sur la deuxième marche du podium aussi, Kevin Mayer, chapeau à lui. Et j'ai été vraiment touché par Christophe Lemaître.
On rappelle cette ligne droite sur le 200 mètres où il est, je crois qu'au début de la ligne droite, il est septième.
Voilà.
Et il remonte,
Quand il apprend qu'il est troisième, sa réaction. Ouais. Au sol, en train de taper le tartan, enfin, je sais plus si c'est du tartan ou autre chose. Mais j'ai trouvé ça génial et puis il a pas eu un parcours facile, quoi. Et j'ai adoré.
Franck est avec nous, 32-16. Salut Franck.
Bonjour. Salut toute l'équipe.
Alors, t'es top, salut, t'es flop. Franck. On est dans cette dernière journée des JO. On peut faire un bilan. T'es top, t'es flop. On t'écoute.
Le top au niveau international, c'est vrai que j'aurais rejoint Jacques, Michael Phelps. Hein. C'est quand même énorme ce qu'il fait, toutes ces médailles d'or. C'est juste incroyable, quoi. Le gars est au top et il y reste. Et malgré tous les soupçons de dopage sur les autres nationalités, jusqu'à preuve du contraire, lui est propre. Donc voilà, c'est quand même énorme ce que fait Michael Phelps en natation. Et après, ça va paraître un petit peu chauvin, mais Teddy Riner, quoi. Je crois qu'on peut pas passer à côté de Teddy Riner, double champion olympique. Moi, je le considère presque comme triple parce que à Pékin, il passe à côté, mais c'était quand même un petit peu litigieux, quoi, les décisions là-bas. Donc, Teddy, il a atteint le sommet de son sport, du judo international et aussi du sport mondial, quoi, toutes catégories confondues. Il est porte-drapeau, il conjure le sort en plus, parce qu'on savait que les porte-drapeaux avaient la poisse de ce côté-là. Et voilà, et Teddy, il arrive, il souhaite être porte-drapeau, il l'assume, il est jeune, il est magnifique, il a été voir plein d'autres athlètes, notamment en boxe, il a été d'être présent pour les autres athlètes.
C'est vrai qu'il a fait le taf en termes de porte-drapeau.
Ouais, il a été voir les boxeurs, là il va y retourner ce soir pour la finale de Tony Yoka, donc voilà, et il conjure le sort. Et, Il a les épaules. Voilà, il a prouvé à tout le monde qu'il avait les épaules. Et pour ça, c'est formidable.
Ouais. Donc, juste avant de passer au flop, mon top, ça reste Brás da Silva. Même si la soirée était très compliquée pour notre Français Renaud Lavillenie, que ce mec-là sorte le saut de sa vie à 6m03 devant son public, devant le stade olympique, franchement j'en ai eu des frissons et c'est fantastique pour lui, le sauteur à la perche, même
dégageait,
si pour Renaud Lavillenie c'est terrible, mais c'était un moment magique, c'était un moment suspendu, c'est le cas de le dire, en plus c'est extraordinaire. Franck, tu bouges pas, les flops de Sophie Camoun sur ces Jeux Olympiques.
Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais pour moi le plus gros flop c'est le CIO. C'est le Comité international olympique. Déjà avant les Jeux, avec tous ces atermoiements autour du dopage qui nous ont quand même gâché une partie des Jeux olympiques, qui n'a pas été capable d'assumer ses responsabilités en s'en remettant aux fédérations internationales avec tous les problèmes qu'on connaît derrière. Et je vais même plus loin que ça. Je me pose même la question du choix du Brésil et de Rio comme ville organisatrice des Jeux olympiques, parce que pour moi les Jeux olympiques c'est avant tout une notion de partage.
Alors Sophie, je te coupe un instant. On revient dessus là-dessus. On va juste faire un crochet par le Club France. Conférence de presse en direct de bilan des Jeux Olympiques de la délégation française avec Denis Masséglia en direct, le président du CNOSF.
D'émotions, voire de superbes émotions, puisque on est en piste pour des médaillons. Moi, je voudrais d'abord commencer par remercier les Brésiliennes, Rio, l'organisation. J'ai toujours dit, ça n'a pas été facile pour ce pays qui a dû subir une crise
en direct du Club France pour cette conférence de presse de bilan. On vous tient informé évidemment, s'il y a une info qui tombe, une déclaration forte, bien sûr, puisque Denis Masséglia est auprès de Francis Luce, le chef de délégation, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, et Teddy Riner, le porte-drapeau de la délégation, qui le sera encore ce soir, cette nuit, pour la cérémonie de clôture. Donc toi, tu remets un petit peu en cause, Sophie, le choix de Rio sur ces jeux-là.
Pas par rapport aux Brésiliens ou au Brésil ou un problème d'organisation des Jeux Olympiques en tant que tel, parce qu'ils ont essayé de faire le maximum, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait cette notion de partage avec le pays organisateur comme on peut le voir d'habitude aux Jeux Olympiques. Je crois que les Brésiliens n'ont pas su ou n'ont pas pu tout simplement partager ces Jeux Olympiques de la meilleure des façons. On l'a vu, les stades étaient vides. Enfin, je trouve ça hallucinant. On avait l'impression, on est allé au stade d'athlée, on avait l'impression à certains moments qu'on était dans un meeting. Quoi. Donc voilà. Et alors, on sait qu'au moment où le Brésil a été choisi comme pays organisateur, il y a 7 ans de cela, à l'époque, le pays ne traversait pas la crise économique et politique qui traverse aujourd'hui. Mais peut-être que le CIO, à un moment donné, aurait pu fournir au Brésil des armes pour pouvoir justement vivre ces Jeux Olympiques du mieux possible. Et on n'a pas l'impression que ça a été le cas.
Un flop sportif avant de passer la parole à Jacques. Sophie. Français.
Donne la parole à Jacques, je vais réfléchir.
Non.
Jacques.
Tes
flops, ouais.
Moi, pour rebondir.
Une grosse déception, quoi, pendant ces jeux.
Moi, je me fais, alors, je veux pas faire le devin ou l'oiseau de mauvais augure, je me fais un peu de soucis pour ce pays après les jeux. Parce que, il y a des trucs, paraît compliqué quand même.
Ouais.
Paraît compliqué, un président intérimaire détesté, un impeachment, c'est-à-dire on destitue la présidente avant, beaucoup de militaires, je sais pas trop.
C'est un peu explosif, effectivement.
Il me semble que c'est une poudrière. Mais bon, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Et voilà. Après, sportivement, j'ai été très triste et j'ai trouvé ça très malheureux, ce qui s'est passé dans la natation française, où des coéquipiers entre eux se jettent un autre coéquipier en pâture, surtout quand ces coéquipiers-là, même si un des deux, Jordan Potin, avait réussi ses jeux
par rapport à Yannick Agnel, effectivement.
En finissant 8e, l'autre, Loris Bourelli, il est là, quasiment par malentendu, il avait déjà noyé son relais au championnat d'Europe, il la ramène, ils font passer pour un menteur un coéquipier, ils font passer pour un menteur un toubib, ils font passer pour un menteur un directeur technique national. Il va falloir qu'il se calme. Si tu veux, je préfère les maladresses de Camille Lacour, qui ont eu une résonance mondiale, mais ce sont des maladresses, et je crois qu'il en est conscient. Et ce qu'il dit sur le fond est vrai, sans doute vrai, mais c'est une maladresse. Je préfère la maladresse de Renaud Lavillenie, qui a eu une vraie renaissance, une vraie résonance mondiale, mais c'est de la maladresse, c'est de la tristesse, c'est de la déception, on peut le mettre, tandis que sur le reste, et puis confirmer après sur les réseaux sociaux, se faire passer pour une star, quand on fait 8e des JO, moi je vais prendre l'exemple du basket, 8e des JO, c'est ce qu'on fait, 7 ou 8e, on est déçu.
Ouais.
Moi, je suis déçu aussi dans la sortie de Tony.
Ouais, Parker. Ouais, je te rejoins là-dessus.
Je suis déçu pour Tony.
Un vrai flop pour moi, ça.
Par rapport, tu vois, à la comparaison avec la sortie de Manu Ginobili en quart de finale au même niveau contre les Ricains. Manu Ginobili, pour les gens qui aiment le foot, c'est l'équivalent de Messi. C'est plus que Maradona en Argentine, quand on va en Argentine. Et il a eu une sortie d'une noblesse extraordinaire. J'aurais voulu que Tony sorte comme ça.
Juste un petit crochet par Saint-Etienne au foot, puisqu'il y a ouverture du score pour Montpellier face au Vert, Edouard.
Avec Steve Mounier qui vient crucifier la défense stéphanoise. Pour l'instant, jusque-là, absolument pas inquiété. Nous en sommes à la 24e minute. L'essentiel du jeu était stéphanois. Les hommes de Christophe Galtier, plein d'allant, plein d'envie pour aller devant, mais voilà une banale balle qui vient gêner Karamoko, le jeune dans la défense à 3. Il loupe son dégagement et derrière Steve Mounier arrive à récupérer le ballon. Il y a un premier arrêt de Stéphane Ruffier, mais le ballon revient sur la tête de Steve Mounier qui au final va mettre le ballon au fond des filets. Donc énorme faute de défense des Stéphanois sur le coup qui leur coûte donc l'ouverture du score. Montpellier qui sur sa première grosse action, première action même tout court, qui marque ici à Geoffroy Guichard à la 22e minute. 1-0 donc pour Montpellier.
On poursuit la déclinaison de nos flops hein, de ces Jeux Olympiques dans quelques instants avec Sophie et Jacques, avec Franck au 32-16 avant de se plonger dans l'une des épreuves qui va nous intéresser aujourd'hui au-delà de la boxe, au-delà du hand. C'est le VTT avec une vraie chance de médaille, une vraie chance de titre, pourquoi pas pour Julien Absalon. On va rejoindre Georges Quirino sur le site de VTT dans quelques instants. Cyril Guimard sera également avec nous. Le 32-16 est ouvert, on vous attend. Le hashtag RMC Live aussi pour toutes vos réactions. À tout de suite.
RMC, radio officielle de l'équipe de France Olympique.
Allez sur lui, ne pas sortir du tatami, Teddy, ne pas sortir du tatami, l'attraper, le jeter, dans 2 secondes, champion olympique.
Fais-le, c'est parti, allez, le quatrième gamante, et Charline Picot, et championne olympique. Charline Picot, championne olympique, elle en vient pas.
Ça va être chaud jusqu'au bout, pour les Français, qui vont le faire, est-ce qu'ils vont le faire les Français, à quelques mètres la ligne sur la ligne d'arrivée. Champion olympique, champion olympique, Pierre Rouin et Jérémy Azou.
RMC Intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
On mettra dans les tops évidemment les émotions vécues en direct sur RMC dans l'intégrale Rio 2016 avec toute la Dream Team. Sophie Camunella, Jacques Monclar également. Et c'est pas fini puisque c'est parti au VTT. On y va dans quelques instants. 19h, le handball, France-Danemark, la finale. Et 20h15, la boxe, la finale des plus de 91 kilos avec Tony Yoka. 17h30 à Paris, 12h30 à Rio.
RMC, Rio 2016.
Olympique du jour.
Et oui, c'est parti. Première chance de médaille d'or de la journée pour les vététistes français Julien Absalon, Victor Koretsky et Maxime Marotte. Ils viennent de prendre le départ de cette épreuve. Ils tenteront d'aller chercher pourquoi pas une 43e médaille tricolore. À 19h, c'est l'autre grand rendez-vous de ce début de soirée. France-Danemark, finale du tournoi de handball masculin pour les experts qui visent une 3e médaille d'or consécutive. Une finale préparée dans un contexte particulier, comme nous l'explique le directeur technique national Philippe Bana.
Aujourd'hui, ça sent un peu l'écurie, le village se vide, il commence à pleuvoir, on voit les gens qui partent avec leurs valises. Et nous, on est là à 2h d'une finale olympique, en train de se concentrer sur ce qu'il nous reste à faire. Et beaucoup de bruit cette nuit, parce que certains pleuraient, d'autres fêtaient leur médaille dans tous les immeubles des HLM olympiques. Donc on est, nous, les derniers concentrés du tard, en essayant de tenir le fil olympique jusqu'au bout. On espère finir ce truc-là, parce que c'est un rêve tellement fort qu'on sait qu'il faut se battre jusqu'au bout pour l'avoir.
Philippe Ballin en direct sur RMC, toujours en handball. C'est l'Allemagne qui a pris la médaille de bronze. Et je vous rappelle, le dernier grand rendez-vous, 20h15, finale des super lourds en boxe entre le champion du monde français Tony Yoka et le britannique Joseph Joyce. Et puis deux résultats. Le marathon a été remporté par le Kenyan Eliud Kipchoge en 2h08 et 4 secondes. Et en volleyball, les États-Unis ont décroché la médaille de bronze en battant la Russie 3-7-2 dans la petite finale.
Cyril Guimard est également avec nous. Salut Cyril.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
puisque l'épreuve de VTT vient de partir. Georges Quirino est sur place, donc nos Français sont en piste, Georges.
Exactement, c'est parti depuis 2 minutes 50 sur cette épreuve masculine de VTT, partie donc pour 34 km 500, 7 tours de ce tracé de 4 km 800 avec des grosses montées, des grosses descentes, des pierres, des passages dans les forêts, de la terre un peu boueuse puisqu'il a plu ces dernières heures ici à Rio, donc pour les 50 concurrents qui sont partis, avec peut-être une course pour l'histoire pour le Français Julien Absalon qui est double champion olympique, qui peut l'être une troisième fois et donc rejoindre Tony Estanguet. Deux autres Français sont là, Maxime Marotte et Victor Koretsky, trois Français parmi les cinq meilleurs mondiaux. C'est parti depuis 3 minutes 24, Loïc, avec les Français qui sont déjà positionnés à l'avant, et ça va plaire à Jacques, je sais qu'il va surveiller ça. C'est Peter Sagan qui
Merci
a fait un départ incroyable. Il partait en dernière position, en 50e position, le Slovaque qui a été maillot vert du dernier Tour de France, oui, vous écoutez bien, et qui a décidé de faire un pari fou, revenir sur le VTT, lui qui avait été champion du monde junior en 2008, revenir sur le VTT pour aller décrocher une médaille. Il est en troisième position, Peter Sagan, qui s'est replacé tout de suite dans le peloton. Pour l'instant, c'est Nino Schurter, le Suisse, l'ennemi numéro un des Français, qui est en tête avec un Italien dans sa roue. Sagan en troisième position, et on voit les Français là, attention, qui sont un peu bloqués dans cette descente technique, qui sont en train d'essayer de se faire un chemin pour ne pas laisser partir le wagon de tête. Donc après 4 minutes de course, gros départ du Suisse Nino Schurter, l'homme qu'il faudra surveiller tout particulièrement, l'homme qui peut en premier lieu gâcher la fête des Français aujourd'hui.
Alors Georges, rappelle-nous juste le format de la compétition olympique de VTT et le parcours également, qu'est-ce que ça donne?
Que je viens de vous expliquer, donc parti pour 7 tours sur 4 km 800 à chaque fois de ce parcours, avec des passages boueux, donc on l'a vu au départ, cette longue montée au départ, une descente un peu technique avec des pierres notamment, et puis ensuite il y a une longue montée là de 5 minutes où les pulsations vont monter au maximum, une descente un peu rapide, on a expliqué des passages pas vraiment dans la forêt parce qu'on est sur un parcours assez artificiel, mais un parcours très spectaculaire pour les garçons, donc 1h30 de course environ pour cette épreuve olympique.
Bien, on n'oublie pas le foot non plus, la Ligue 1, la deuxième journée, Saint-Étienne-Montpellier, Edouard G.
Minutes de jeu et Montpellier qui mène toujours 1-0 avec ce but de Steve Mounier tout à l'heure. C'était à la 22e minute sur une énorme faute de la défense totalement expérimentale des Verts, expérimentale en termes de joueurs, avec Dylan Saint-Louis qui est plutôt un attaquant et un jeune attaquant, et puis Karamoko, et puis inédite aussi dans son placement avec un 3-5-2 qui au départ était bien en place du côté des hommes de Christophe Galtier, mais maintenant ça part un petit peu, ça s'effrite tout cela. Et Montpellier en profite, et Montpellier aurait même pu marquer un deuxième but avec Camara qui a été signalé hors jeu, mais il ne l'était pas, et si l'arbitre n'avait pas interrompu sa course, eh bien il filait tout droit pour un face-à-face avec Stéphane Ruffier qui aurait pu être lourd de conséquences, mais on aurait été à 1-0. 36 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard, 1-0 pour Montpellier.
Cyril Guimard, comment tu juges les chances de médaille des Français, et notamment ce pari fou de Julien Absalon pour aller chercher ce titre olympique qui serait son troisième?
Un pari, non, pas un pari fou, puisqu'il est quand même le numéro un mondial actuellement. Non, je pense que c'est un objectif tout à fait raisonnable. Maintenant, il a un gros adversaire aujourd'hui avec le Suisse Schurter. Et puis, il y a un invité de dernière minute qui est Peter Sagan, qui pour l'instant, fait jeu égal avec les meilleurs, en étant parti de la dernière position, puisqu'il se trouve en troisième position, Salon actuellement en quatrième position, donc tout va bien pour le Français.
C'est pas Julien Salon, hein, Cyril, c'est Victor Koretsky visiblement qui est dans les premières positions. Donc Nino Schurter, le Suisse, qui emmène devant Peter Sagan qui est en troisième position, notamment là dans cette descente dans la forêt. Et c'est bien Victor Koretsky qui est là. Donc le troisième Français champion du monde junior en 2011 notamment. Il a été un peu retardé, il me semble, Julien Salon, dans la première descente. Ça a bousculé devant lui. Et du coup, il a dû se faire un chemin. Il a été un peu ralenti, me semble-t-il, le Français. En tout cas, pour l'instant, c'est son grand rival, c'est Nino Schurter qui est parti très vite.
Ouais.
Mais en tous les cas, le Suisse Schurter, le rival numéro 1, on l'expliquait, celui qui est numéro 2 mondial aujourd'hui, qui, comme Absalon, est 5 fois champion du monde dans sa carrière, Schurter, Cyril, a décidé de faire un départ canon et d'essayer tout de suite de mettre le plus loin possible Absalon. Hein.
Oui, mais il a l'habitude de partir très vite, Schurter, hein, donc ne nous affolons pas encore. Il a l'habitude de partir très vite, d'être très incisif. décisif. Mais pour l'instant, il n'a pas fait la différence puisque l'Italien Fontana et Peter Sagan. Alors lui, il est parti vite, lui, hein, parce que de la dernière position, Sagan, se retrouver en tête au bout de 400 mètres, c'est absolument extraordinaire.
Il a doublé tout le monde, c'était dingue. Il a doublé au premier virage, Cyril. Il a doublé les 49 mecs qui étaient devant lui.
Oui, et incroyable. Alors là, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que sur certains passages techniques, il est un tout petit peu crispé, donc il n'a pas retrouvé les qualités qui étaient les siennes à l'époque où il était junior ou espoir, mais ce qu'il fait c'est quand même extraordinaire. Donc avec sa condition et sa classe naturelle, il reste, alors à l'instant précis, il reste un candidat pour la médaille d'or. Et Koretsky, bien écoute, se bat bien en quatrième position. Il faut qu'il reste calme, qu'il reste là en attente. Et il faudrait que Absalon, effectivement, après le deuxième virage, Absalon était en 10-12e position. Et il y a eu un petit accrochage, mais là, j'avais pas vu qui était dedans. Voilà. Mais en fait, Koretsky était le mieux parti de toute façon, puisque au premier virage, il était à peu près en 4e ou 5e position. Et il a réussi, lui, à se sortir de tous les pièges. Bien, le problème, c'est qu'Absalon va être obligé de faire un gros effort fort pour revenir, car Charter ne va pas le laisser faire.
Alors il est où, Georges?
Et on va faire les intermédiaires. Vas-y. Justement, après 3 300 km, donc ils sont 5 en tête avec Fontana, l'Italien, donc qui est là, le Suisse Charter, le Slovaque Sagan, le Français Koretsky, l'Israélien Aimi, et on voit à l'instant à cet intermédiaire, après 3 km, Julien Absalon qui vient de passer en 22e position à 24 secondes, Julien Absalon en compagnie de son compatriote Maxime Marotte, donc maintenant dans cette longue montée, cette montée de 5 minutes pour Julien Absalon pour essayer de revenir petit à petit. C'est encore long, hein. Il reste encore 31 km sur ce tracé, et encore 6 tours et demi donc pour ce parcours de VTT.
On rappelle, on est avec Sophie Camoun, avec Jacques Monclar, Cyril Guimard également. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épreuve féminine de VTT hier, Georges, rappelons l'énorme déception pour Pauline Ferrand-Prévot. On va faire réagir Cyril dans quelques instants, qui a abandonné hier, hein, Georges, sur cette épreuve olympique.
Oui, qui a abandonné après 2 tours et demi seulement. On l'avait vu perdre du terrain. Chaque tour était à 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 de la tête de course. Et puis à 2 tours, après 2 tours et demi, elle a laissé tomber tout simplement. Elle a mis le pied à terre. Plus d'énergie, nous a-t-elle dit, pour celle qui était encore championne du monde de VTT il y a un an, qui était aussi championne du monde de cyclisme sur route il y a un an également, mais qui a terminé 26e de l'épreuve sur route ici au tout début des Jeux. Saison pourrie par les blessures, changement d'entraîneur. Il n'y a pas eu de miracle ici pour Pauline Ferrand-Prévot.
Ouais, Cyril, effectivement.
Moi, j'ai juste une question à Cyril et à tout le monde, à Georges éventuellement. Elle n'a pas eu les yeux un peu plus gros que le ventre en voulant doubler?
Cyril,
c'est possible. Moi, je pense,
non, le problème, Jacques, est beaucoup plus profond que cela. Et quand je dis beaucoup plus profond, non mais bon, tu as été entraîneur et tu sais que logiquement elle n'aurait jamais dû être essayée aux Olympiques. Déjà pour commencer. Y compris sur la route et y compris on ne refait pas une condition physique en 3 semaines ou en 1 mois. On sait que quand on part du point zéro, il faut entre 3 mois, 3 mois et demi, si tout se passe bien dans la programmation, et 4 mois à 5 mois, voire 6 mois si vous avez des petites ruptures de charge dans cette préparation. Elle n'a rien fait depuis plus de 8 mois. Si on pouvait d'un seul coup, parce qu'on va claquer dans les doigts, être physiquement dans le coup, ça n'existe pas. Enfin, ça a jamais existé, Jacques. Je suis désolé de le dire.
Aucun sport, oui, je suis d'accord avec toi.
Non, attends. Sur la route, il y avait 2 filles qui étaient plus fortes qu'elle. Mais c'est quand même elle qu'on met. Je vous dis pas. Je vous
en
dis
France,
pas la gueule des 2 autres françaises. Bon, surtout quand elle voit les résultats aujourd'hui. Elle a pas fait de VTT. Elle a fait 2 coupes du monde où elle a fini à 8 minutes. Attendez, et vous la mettez dans... Attends, on ne peut pas jouer là-dessus, c'est pas vrai. La faute, elle est sur le plan fédéral. Comment peut-on...
Mais alors pourquoi y être allé? Pourquoi y être allé?
Elle y est allée parce qu'il y a eu du lobbying derrière, point. On n'est pas dans le sportif. Parce que, ou alors les entraîneurs de l'équipe de France, il faut qu'ils changent de métier. Bah oui, il faut qu'ils changent de métier. Bon, le pire, j'ai eu l'occasion de le dire dans les GG ce midi, c'est qu'il y a le médecin de l'équipe de France que j'aime bien au demeurant, et qui s'est fourvoyé à lui faire une infiltration pour qu'elle puisse ne plus avoir mal au dos à 15 jours du départ, alors qu'elle-même disait qu'elle ne pouvait pas dépasser 220 watts, alors que là, il faut être entre 360 et 400. En 15 jours, elle va pas prendre 4, elle va pas prendre 150 watts. Et que le médecin se prête à ce jeu-là, alors qu'un médecin, ça connaît la physio. Au minimum, je suppose, en plus, la physio sportive, puisqu'il est médecin de la fédération. Il n'a pas le droit de jouer dans cette pièce-là. Et pourquoi il joue dans cette pièce-là? Moi, je voudrais bien qu'il me le dise pourquoi il joue. Il ne peut pas me dire que c'est parce qu'il croit qu'elle va gagner. C'est pas vrai. Il y a une autre raison. Comme à la fédération, ils ne peuvent pas vous dire on l'a mise parce qu'elle pensait qu'elle allait gagner. Parce qu'à ce moment-là, il faut changer tout le staff. Hein. Mmh. Il faut aller chercher des entraîneurs ailleurs, hein, mais pas ceux de la fédération, je suis désolé.
Il y a eu un lobbying énorme. Flops. Ça fait partie de ces flops également, le vélo en général, le vélo tricolore sur ces jeux, et particulièrement Pauline Ferrand-Prévot. Hein, on va exactement
la quatrième place quand même pour Julien Alaphilippe qui a été vachement bien.
Il a pas mieux.
Ouais.
Absolument, on l'oublie pas.
Attendez, il aurait pu avoir une médaille si les Français avaient bien couru.
On va marquer juste une respiration. Georges, Cyril, Sophie.
Non, mais ce qui se passe dans la fédération, est inadmissible. Tu as parlé tout à l'heure de la natation. Je suis désolé, hein, on peut faire match. Hein.
Il y a peut-être match, effectivement, entre toi et Sophie. On y revient dans quelques instants dans l'intégrale Rio 2016. Le live, le direct, c'est bien sûr cette épreuve de VTT avec nos Français qui vont tout faire pour aller chercher une médaille.
Avec une crevaison pour Peter Sagan, Loïc. Visiblement, la roue avant, il est en train d'être décroché par le groupe de tête. Il baisse la tête, Peter Sagan. Il a un problème mécanique, visiblement. Donc, ça va se compliquer très rapidement pour le Slovaque. Alors que le groupe de tête avec Koretsky est en train de voir revenir derrière lui à 5 secondes. Julien Absalon également et Maxime Marot qui font les forcings pour revenir. On est à la fin du premier des 7 tours, Loïc.
Le foot également, la deuxième journée de Ligue 1, Saint-Etienne-Montpellier. Edouard G.
Il reste 40 secondes dans cette première période et c'est toujours Montpellier qui est en tête au tableau d'affichage avec ce but. Steve Mounier, c'était tout à l'heure à la 22e minute. Camara là qui essaye de récupérer un centre, toujours pour Montpellier pour essayer. Non, le ballon passe largement à côté. Montpellier qui a ouvert le score, donc un petit peu contre le cours du jeu. C'était sa seule occasion à la 22e minute, mais depuis, eh bien, Montpellier qui gère tranquillement cette avance, la faute à des Stéphanois dans un nouveau schéma, mais qu'il n'arrive pas à assimiler, et c'est absolument pas dangereux pour Jourdren et tous ses coéquipiers. La mi-temps dans une poignée de secondes, Loïc, et Montpellier mène ici 1-0, c'est même la mi-temps à l'instant, donc 1-0 pour Montpellier à la mi-temps sous les sifflets Geoffroy Guichard. Mounier, le but de Montpellier à la 22e.
Et je vous rappelle un petit peu plus tôt dans l'après-midi la victoire de Guingamp sur l'OM, 2-1 pour les Guingampés. On remercie Franck pour son appel tout à l'heure au 32-16. On se retrouve dans quelques instants dans l'intégrale Rio 2016 pour la suite de l'épreuve de VTT. C'est la dernière journée des Jeux Olympiques et encore des chances de médailles et de titres olympiques pour les Bleus.
RMC intégrale Rio 2016, Loïc Braillet.
Avec toute la Dream Team Olympique, Sophie Camoun, Jacques Monclar, Cyril Guimard est avec nous aussi puisqu'on vit en direct l'épreuve de VTT masculine. Georges Quirino est sur place. Où sont nos Français, notamment Julien Absalon, sur lequel on mise le plus de chances pour aller récupérer une médaille?
Pour l'instant, c'est pas lui qui est le mieux placé parmi les trois tricolores engagés sur cette course de VTT. On est dans le deuxième des 7 tours. Pour l'instant, c'est le champion olympique qui mène la danse. Yaroslav Koulavi, le Tchèque, devant Nino Schurter. Derrière, ça suit en file indienne dans cette descente. On vient de passer sur les zones empierrées. Victor Koretsky est pour l'instant le Français le mieux placé. Il est en quatrième position. On voit, allez, on va dire à 5 secondes de la tête de course, Maxime Marot qui est en train de faire l'effort pour revenir. Et là, on va dire à 10 secondes, voilà, il passe devant les caméras en danseuse. Julien Absalon qui relance. Il doit être à une... 10-15 secondes de la tête de course, donc des gros costauds qui sont devant et qui continuent d'accélérer pour essayer de maintenir le plus loin possible, certainement l'un des plus gros poissons, donc Julien Absalon à la quête, qui est à la conquête d'un troisième titre olympique, qui doit faire un gros effort tout de même pour essayer de revenir donc dans ce deuxième des 7 tours contre ce circuit olympique.
Cyril, on est qu'au début de cette épreuve, mais tu sens malgré tout Absalon encore dans le coup dans les prochains tours possibles, ou là ça commence à devenir compliqué?
Non, non, pour l'instant rien n'est encore fait. On a vu d'ailleurs hier que faire des efforts ou se mettre à la planche trop tôt, on payait l'addition. On est dans des conditions atmosphériques où il faut rester un petit peu en dedans, en garder un petit peu pour être capable de faire le final. Les défaillances sont énormes et on l'a vu hier au niveau des femmes. Donc il ne faut pas il faut absolument pas s'énerver. Il faut surtout pas pour Absalon essayer de revenir trop tôt. Il était à 24 secondes tout à l'heure, il est à 11 secondes, sauf que Shorter a compris un petit peu le danger et qui remet la pression maintenant dans le groupe de tête. Ça va pas être évident, mais il faut rester calme, il faut revenir progressivement, reprendre seconde par seconde et essayer de les reprendre si possible sur les parties techniques, donc pas en se mettant dedans sur le plan physique.
Et Corretti est quand même très bien. Peter Sagan à l'arrêt, Cyril, on vous le disait tout à l'heure, crevaison roue arrière pour le Slovaque qui avait fait le plus dur, se replacer à l'avant. Il était vraiment à la lutte avec les meilleurs mondiaux et qu'il a été obligé de s'arrêter à son box pour avoir une assistance mécanique, changer la roue avant. Et là il va partir loin, certainement trop loin désormais Peter Sagan pour avoir encore une chance de se lutter véritablement à la bataille pour les médailles. En tous les cas, il y en a un qui est parfait pour l'instant, c'est Victor Koretsky, le petit français de 21 ans, champion du monde junior en 2011 et qui est numéro 5 mondial aujourd'hui, qui pour l'instant s'accroche à la roue des meilleurs, à Luca Braggio qui est en tête pour l'instant devant Nino Shorter le Suisse, et donc Victor Koretsky qui est en troisième position dans ce deuxième tour sur les 7 que compte ce circuit olympique.
Eh bien, on va rester avec toi encore quelques minutes évidemment avant de laisser la main à François Giuseppi depuis la salle de handball, puisque vous le savez, à 19h ce sera la grande finale de hand entre la France et le Danemark, la finale pour les Français qui sont en quête d'un troisième titre olympique consécutif. Et puis à 20h15, je vous redonne les horaires, 20h15 et la finale de la boxe en plus de 91 kilos, le combat de Tony Oka pour la médaille d'or face à Joe Joyce. Il est déjà assuré d'une médaille d'argent, il veut l'or évidemment, Tony Oka. Une chute, Georges?
On s'arrête à toutes les chutes, Loïc.
Oui, bien sûr, mais celle-là est impressionnante.
Elle est impressionnante effectivement pour le néerlandais Rudy Van Hoots, qui a évolué vraiment dans un deuxième rideau là sur la zone empirée dans la descente. Il est passé par-dessus son vélo et a tapé la tête contre le sol, mais ça avait l'air d'aller tout de même pour le néerlandais qui gardait le sourire par terre. Oui, Jacques.
On en a vu une belle de chute au moment du ravitaillement où il y a un gars qui se met sur le côté et l'autre qui arrive derrière et qui fait looping par-dessus. C'est spectaculaire.
Parcours très piégeux en plus aujourd'hui parce que c'est glissant, on vous le disait en début de retransmission, il a plu énormément cette nuit et encore ce matin ici sur ce parcours de Deodoro, on est au nord de Rio, et ben là la terre s'est transformée un peu en boue. Tiens, on a les intermédiaires intéressants après 8 km 200 de course. Donc Nino Shorter le Suisse en tête avec l'Italien Braggio, 6 secondes d'avance sur Koulavi le champion olympique, et derrière Maxime Marotte est en 5e position désormais à 12 secondes de la tête de course de Nino Shorter. Victor Koretsky a connu un petit problème visiblement parce qu'il était à la lutte avec les meilleurs. Et là, pour l'instant, il a disparu des radars. Il a crevé roue arrière, effectivement, pour Victor Koretsky. Ah, c'est terrible, parce qu'il était vraiment avec les meilleurs. Julien Absalon, lui, est en train de passer à l'intermédiaire également, après 8 km 200. Julien Absalon en 6e position à 23 secondes de Nino Shorter. Nino Shorter qui s'envole, là, qui laisse l'Italien Braido dans cette longue ascension. Nino Shorter qui montre les muscles, le Suisse. C'est lui, l'ennemi public numéro 1. Vous le répétez pour l'instant. Eh bien, il est en train de faire un gros départ, comme on vous l'annonçait, après 22 minutes de course dans ce deuxième des 7 tours de ce circuit olympique.
Eh bien, quelques messages sur le hashtag RMC Live. Il y a Lutz qui nous dit le druide parle dru, mais vrai, comme toujours. Hashtag RMC Live. Il y a également Guillaume qui nous dit mon cœur balance entre Julien Absalon et Peter Sagan, que j'adore aussi par ailleurs, avec tout ce qu'il fait sur les routes du Tour de France notamment et sur les épreuves sur route. Et puis Cagnois qui réagit encore à la critique régulière de Cyril Guimard sur la politique fédérale, notamment sur ces Jeux Olympiques. Le druide a raison à 100% sur Pauline Ferrand-Prévot, elle n'avait pas sa place ici à Rio sur ces Jeux Olympiques. On va également récapituler les courses RMC du jour. C'était à Deauville avec Sébastien Darras. Salut Seb.
Bonsoir à tous. comme tous les dimanches durant le meeting estival, on était à Deauville. Le quintet a été remporté par le 16 Zambezo qu'on vous avait vivement conseillé dans les courses RMC. La deuxième place pour le 14 Dagobert Duke, la troisième pour le 12 Summer Quality, devant le 15 Tiki Win et le 7 Brave Impact. 16, 14, 12, 15 et 7. Un quintet qui rapporte plus de 313 000 euros dans l'or. Et je vous rappelle que le 8 était non partant. Demain, mon cher Brahim, direction Clairefontaine pour la désormais traditionnelle journée aux couleurs d'RMC. Toutes les courses porteront les noms de vos shows préférés. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à faire un tour sur l'hippodrome le plus fleuri de France. Le quintet, c'est le prix de la Côte Fleurie. Que des 3 ans au départ, Brahim.
Oui, je suis chaque année Sébastien et malheureusement cette année, je suis à Rio. Mais je vais vous conseiller le numéro 13, Grand Trianon. C'est un poulain qui n'a pas encore gagné, Sébastien. Mais je pense qu'il ne perdra pas au son palmarès. Et on va certainement le voir attendre à l'arrière et bien finir. Donc attention à lui.
Bah ça va, t'as une bonne excuse hein, pour pas être à Clairefontaine ce lundi. Attention à Glade le 9 qui fait certainement partie des bonnes bases de cette épreuve. J'aime beaucoup également le 3 Award qui doit pouvoir s'imposer dans une course de ce genre. D'autres infos pour ce quintet et les autres courses du jour, comme d'habitude, sur rmcsport.fr.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci à Sophie Camoun et à Jacques Monclar. Ce fut un plaisir ces Jeux Olympiques avec vous dans la Dream Team Olympique. On va tranquillement faire les valises et rentrer sur Paris en ce qui nous concerne. Mais l'intégrale.
Merci bon, tout le monde et puis surtout les auditeurs.
Exactement.
Qui nous ont supportés, qui ont supporté l'insupportable.
20 heures par jour quand même. Et c'est pas fini. Jusqu'au bout, jusqu'à la cérémonie de clôture, vous vivrez tout en direct sur RMC. Notamment le hand au-delà du VTT qui est en cours avec Georges Quirino et Cyril Guimard qui sont toujours là. Le hand à 19h, France-Danemark. François Giuseppi est déjà dans la salle de hand du Parc Olympique pour la suite de l'intégrale Rio 2016. Salut François.
Salut Loïc, salut à tous. Effectivement, cette future arena qui est totalement vide, hein, vous l'avez bien compris, on est à une heure du coup d'envoi d'une historique finale du tournoi olympique de handball France-Danemark pour voir les experts remporter trois fois consécutivement ces Jeux Olympiques après Pékin, après Londres. Peut-être Rio, mais on n'oublie pas également la boxe. Dès 20h15, Tony Yoka sur le ring olympique pour décrocher lui aussi une médaille d'or. Cette dernière journée peut s'annoncer historique pour la délégation française avec également Julien Absalon en ce moment même sur le parcours de VTT. On y va dans un instant. Il est midi, il est 17h56 sur RMC. À tout de suite.
RMC intégrale Rio 2016.